Bonjour, Raymond Richard au micro. Eh bien, nous nous retrouvons avec Marie-Lys pour l'émission Tourne-Page.
Bonjour.
Et aujourd'hui, le livre que nous avons choisi, l'auteur d'abord, c'est Éric Deluca. Le livre, c'est l'histoire d'Irène, mais on pourra parler de cet auteur plus généralement. Alors, c'est un livre très petit.
Merveilleusement traduit par Danielle Valin, sa fidèle traductrice, publiée chez Gallimard. Enfin, ça compte.
Très petit et très beau.
Oui.
Voilà. Donc, eh bien, vous savez tout, hein, chez Gallimard, Histoire d'Irène, Éric Deluca. Alors maintenant, parlons un peu de la langue. Une langue qui est vraiment... C'est de la prose et c'est, en fait, c'est de la poésie. Les deux.
C'est les deux, parce qu'en fait, chez lui, par exemple, là, on peut dire aussi que ce livre, c'est un peu une parabole. Hein. Mais cet auteur-là, Éric Deluca, c'est un grand poète. Il parle beaucoup de poésie sans jamais dire qu'il est poète. Mais... Même les phrases qui comportent des choses aussi, je ne sais pas, je vais vous lire ça par exemple. Vous allez voir qu'à la fois c'est de la poésie et c'est quelque chose de très profond, sans mauvais jeu de mots. La terre est haute et basse, elle n'égalise pas les destinées. La mer est plus juste. Si une vague s'élève plus haut que les autres, ensuite elle descend. Ben voilà, c'est un poème et en même temps c'est tellement juste.
Et c'est l'expression pour... Beaucoup de situations, il emploie des expressions imagées et la note est juste, elle renvoie à toute une gamme de sentiments, ce qui nous met en communion aussi avec lui. C'est ça que j'ai trouvé intéressant. Un auteur qui nous met d'emblée en communion avec son personnage, il aime ses personnages.
Il aime Irène.
Il aime Irène.
Il aime Irène d'un amour paternel, parce qu'en fait, il se décrit comme un vieillard. Bon, c'est pas un vieillard, il est né en 1950, et là, on sent quand même qu'il parle de lui d'une certaine façon, même si c'est affublé d'une barbe. Et Irène dit, j'ai pas de père, mais j'aurais bien pris vous comme père. Et il dit, mais non, mais moi, j'ai pas eu d'enfant. Mais oui, mais n'empêche. Voilà, il y a ce lien très très fort entre eux. Il la comprend alors qu'elle ne parle pas. C'est quelqu'un qui sait lire au fond des âmes et qui sait lire les corps aussi, sait lire les mouvements de son corps. Elle a 14 ans, il faut le dire. C'est une toute
jeune.
Elle
a 14 ans, elle a vécu sur une île grecque, elle a vécu chez un pope, elle s'est fait mettre dehors quand elle a été enceinte. Mais tout vient naturellement et lorsqu'il en parle, c'est avec beaucoup, beaucoup d'affection. Avec beaucoup de... C'est même pas de l'affection, c'est... Il partage sa vie, il est très intéressant. Et puis, dans cette histoire, on parcourt toute cette gamme de sentiments de l'un vis-à-vis de l'autre. Et puis, il y a le monde merveilleux de la mer.
Ah ben, il en parle tout le temps. Là, je tombe encore... là, encore, c'est une lecture à plusieurs plans. La meilleure répartition de la richesse. C'est drôle que le communisme n'ait pas pris la mer comme exemple. Alors moi, ça me sidère d'être capable d'écrire ça. Et ça aussi. Au tribunal, on voit le dessin d'une balance, mais sa justice dépend des contrepoids, qui varient entre les cas favorisés et les cas défavorisés. La mer, en revanche, aplanit les dénivellations sans tricherie.
J'aime beaucoup les contrepoids.
Ah, mais oui, mais alors... En fait, c'est incroyable, parce que c'est beau, c'est très fort.
Et la touche est juste.
Et je me suis dit, mais j'y avais jamais pensé. Et pourtant, faut pas dire que c'est comme une évidence, c'est une phrase qui est devenue tellement banale, mais voilà. Et sauf que lui, quand il le dit, à la fois vous lisez un très court poème, un petit peu comme un haïku, c'est pas sa civilisation du tout, mais ça se lit un peu comme un haïku, ça. Et c'est inoubliable.
Oui, peut-être. Ça, mais le lien, je trouve que le lien entre de la mer est très évident, entre ce Japon et puis la Grèce. Et alors... Lui, il se situe comme italien, mais italien de Naples. Alors, il évoque son lieu et il parle de Parthénopée. Je trouve ça intéressant parce que c'est une notation, une incise là, qui nous mène de la Grèce en Italie et on est vraiment dans un univers méditerranéen très coloré avec ses îles. Enfin, véritablement un petit bijou.
Et puis, il faut savoir la géographie. À propos justement de géographie et de Naples, il faut savoir que quand même Naples, c'est
une ville grecque.
Oui, aussi. Mais c'est aussi sa ville. C'est la ville. C'est une ville dans laquelle le livre qui l'a rendu le plus connu, mais on en avait parlé, c'était Montedidio. C'est sa ville et c'est son père. Et d'ailleurs, il y a une petite nouvelle après, une petite histoire, pas une nouvelle.
Qui est la biographie de son père.
Et, Il a écrit aussi un livre sur le Naples occupé. Il a écrit... Naples, c'est vraiment... En plus, il s'intéresse beaucoup aux langues. Il y a aussi cette petite phrase, je vais peut-être la retrouver. Voilà. « J'ai étudié la langue de mer au lycée, mais pour parler avec un de ses petits-fils grecs, je dois aller frapper à la porte de Shakespeare. » Donc, il a cette fascination des langues. Pourquoi ? Parce que lui, il était à Naples, où on parlait napolitain, et que son père lui a dit « Tu dois parler italien ». Qui est la langue noble. Donc déjà, il parlait l'italien, en étant napolitain, comme une langue étrangère. Et ça lui a donné ce goût des langues, et c'est pourquoi il a appris tant de langues après, il a appris l'hébreu tout seul, enfin c'est incroyable.
Oui, alors, quand vous évoquez l'hébreu, il y avait aussi, me semble-t-il, en filigrane, il y a des éléments qui nous rapportent à Dieu.
Ah bah oui.
Ça n'est jamais,
ah bah
ça
oui.
n'est jamais l'évidence, mais c'est, finalement, ça transpire à toutes les lignes.
Mais alors, c'est étonnant, cet homme qui ne croit pas, mais qui cherche tout le temps.
Et qui a une culture biblique alors, extraordinaire.
Mais oui, mais parce qu'il a traduit la Bible... Tout seul. Il y a un de ses livres, il en parle beaucoup, parce que, en fait, c'est un homme de conviction. Donc, il était ouvrier, il a choisi d'être ouvrier, et le soir, il rentrait et il étudiait la Bible. Et voilà, une des phrases qui lui correspondrait, pour Aldo, alors, Aldo, c'est son père, pour Aldo, athée de guerre pour raison d'évidente incompatibilité entre Dieu et le malheur vu sur terre. Alors après, c'est la coutume du juif semble exagérément divergente, parce que là, on arrive dans cette notion de religion par rapport à la foi où les catholiques se découvrent en entrant dans une église et où les juifs doivent absolument être couverts dès que il y a le ciel au-dessus de leur tête, parce que sinon, il n'y a pas de déférence envers le Dieu, on doit se couvrir. Donc là, il y avait un trou dans le toit, donc il devait garder son chapeau, parce que Dieu pouvait voir par le trou, donc c'était ouvert, c'était comme si c'était en pleine nature. Moi, je suis...
Alors, c'est vrai que la partie de la nouvelle où il évoque son père, bon, on comprend la tendresse, puisque ce sont les sentiments de filiation qui s'expriment ainsi, de tendresse du fils pour le père. Mais c'est vrai que, pour revenir à l'histoire d'Irène, les dauphins aussi... sont partie prenante.
Les dauphins comme les êtres les plus doux, les plus respectueux, les plus synonymes de la véritable nature. Nature avec un grand A, qu'est-ce que c'est que la nature ? Ça aussi, ça lui importe beaucoup, parce qu'il est très souvent, il a choisi de se retirer à la campagne, c'est devenu un grand montagnard, c'est un respectueux de tout ce qui nous a été donné. Et en même temps, c'est quelqu'un qui cherche. Il y a ça que j'ai adoré. J'ai appris ensuite... Parce qu'il aime les chiffres, bon, il aime les chiffres parce qu'il leur donne une espèce de symbolique. Son chiffre, c'est le préféré. Alors, c'est le 6, et il dit, j'ai appris ensuite que le 6 est le préféré de la nature. L'hexagone parfait exécuté par les abeilles, les flocons de neige, la glace par les cristaux. J'avais jamais pensé à ça.
Le passage, là, c'est lorsqu'il évoque la scolarité, si j'ose dire, effectivement.
Oui, oui.
Là, il a, c'est par touche, enfin bon, et on apprend, on voit les langues, là, enfin bon.
Mais tout à l'heure, dans la religion et dans la foi, il y avait aussi, elle a aussi, on mélange à la fois la poésie. Je lis ce petit bout-là. Le matin, le vieil homme ouvrait un livre et le laissait ouvert. Le vent feuilletait les pages. Il le refermait le soir sans avoir lu une ligne. Mon père lui en demanda la raison. Il était curieux et ne se gênait pas pour poser des questions. L'homme lui répondit que ce livre était un livre de prière, mais qu'il ne savait plus prier. Alors il le laissait ouvert, et que le vent se charge de prier. Il le dit d'un ton ferme et chagriné, sûrement pas pour rire.
Est-ce que le vent se charge de nos prières ? Question intéressante.
Non, alors voilà, on se dit Eri De Luca en même temps, mais c'est quelqu'un d'universel. Et de temporel. En ce moment, à la fois, je pense qu'on est dans la prière totale et dans le... Non, mais c'est bien difficile de prier en ce moment. On peut être révolté, on peut être complètement désemparé. Et voilà, il y a des moments dans la vie où on n'y arrive plus. Et voilà, comment ne plus arriver à prier et continuer de prier quand même? On laisse faire le vent, ça veut dire qu'on n'abandonne pas.
On laisse faire le vent, finalement. Les bougies, les fleurs.
Enfin. Voilà.
Alors, c'est vrai aussi qu'il y a des notations très concrètes. Et à propos des dauphins, puisqu'il parle beaucoup des dauphins, je me souviens de ce passage où on évoque ces animaux marins utilisés dans les cirques. Et là, ça n'est pas du tout la présentation du numéro, ça n'est pas du tout... Mais il évoque la tristesse de ces animaux qui sont dans cette situation et qui n'est pas naturelle pour eux.
Et qui vivent beaucoup moins longtemps.
Oui. Donc là, voilà, au lieu d'un long plaidoyer pour les animaux, pour les phoques, pour je ne sais pas quoi, cette notation qui nous amène, qui revient et qui nous amène à penser les problèmes d'aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est à la fois un livre poétique qui s'envole vers des horizons lointains, vers la Grèce, vers la mer, qui nous emmène vers la Bible, et qui en même temps, par quelques notations, nous amène dans la relation elle va avoir un enfant,
ça parle de l'ostracisme à propos de ça,
elle
le rejet, oui.
L'exclusion de cette femme, puisque qui est le père, elle nous parle de notations qui correspondent à des situations d'aujourd'hui très concrètes.
Et il y en a une autre.
Sans horreur, mais avec une notation très juste.
Il s'était imaginé que sa part de guerre pourrait se terminer ainsi, la nuit et en cachette, en compagnie de camarades avec qui il n'avait rien en commun, à part ce vieil homme qui lui avait offert de l'eau et le tue. Hospitalité du désert. Si c'est pas... Moi, ça m'a frappé, ça. Parce que ce sont des choses qu'on ne sait pas dire avec autant de simplicité et de force. Qu'est-ce que c'est que le désert? C'est offrir de l'eau et dire tu. C'est ça, l'hospitalité. Moi, ça m'a touché énormément. C'est un livre qui m'a touché, mais il faut dire que Eri De Luca, quoi qu'il puisse dire, nous touche. Je crois qu'il sait, il a cette... on ne sait pas si c'est magique, si c'est un don qu'il a reçu et d'où il l'a reçu, de parler à chacun de nous. Parce qu'il a eu une enfance très dure, finalement. Il adorait son père, mais c'était l'époque. Hein. Les pères étaient toujours distants, exigeants. La mère était exigeante tout court. Ça n'allait jamais bien. C'était jamais assez. Et en fait, lui, en retour, c'est un être qui écoute et qui est généreux.
En tout cas, il est généreux avec Irène. Et il nous livre une histoire qui ne peut que combler les lecteurs, et c'est pour ça qu'on vous recommande ce livre. Je rappelle, l'histoire d'Irène, c'est édité chez Gallimard, c'est traduit par Daniel Valin, et ça respecte la langue magnifiquement. On a la chaleur et les couleurs de la langue italienne, et c'est de Eri De Luca. Alors, je vous dis bonne semaine à tous.
Au revoir.
Au revoir. Thank you.